Bonjour, je suis en compagnie de Laurent Testot. Nous parlons de Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité qui vient de paraître aux éditions Payot. Était paru auparavant Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité. Laurent, pourquoi étais-tu intéressé à cette histoire des chiens et de l'humanité? D'où est venue cette idée?
C'est une histoire qui a commencé peut-être en 2010, 2009-2010. J'ai voyagé autour du monde et puis avec ma compagne, j'ai pu voir qu'à ce moment-là, les chiens changeaient de comportement suivant les pays. Il y a une ligne Wallace des chiens sur le globe entre les chiens agressifs et les chiens gentils. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, les chiens reflètent vraiment les humains. Et c'est pour ça, quelque part, que j'ai écrit Homo Canis. C'est pour montrer à quoi nous autres humains nous ressemblons quand quelque chose que nous avons sélectionné depuis longtemps pour nous aider, nous aimer, nous assister, nous regarde, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Qu'est-ce qu'il sait de nous? Voilà. Et merci, Dominique Jeanvret, de m'inviter à nouveau à cette émission.
Alors, ce titre déjà, Homo Canis. J'aimerais que tu nous expliques déjà le terme canis et pourquoi il est accolé au terme homo.
Ce sont les deux termes latins de classification savante, cladistique, dirait-on, pour désigner respectivement pour homo le genre d'animaux auquel on appartient, pour résumer des singes que l'on pense évoluer, et canis, c'est le terme latin pour désigner les chiens, et on appelle en fait notre chien le canis familiaris, hein, tous les chiens, le corgnaud sans race, au teint jaune, qui traîne dans nos pattes quand on se rend dans des pays défavorisés, comme le superbe berger allemand du voisin ou le caniche nain de la grand-mère. Et ensuite de Canis familiaris, nous avons bien d'autres canis, dont Canis lupus, dont descend Canis familiaris, et Canis lupus, c'est le loup gris ou loup commun. Il existe quelques autres canis qui sont des loups, des coyotes, etc. Et ils ont beau former des espèces différentes, ils sont quand même interfertiles et leur descendance est fertile, ce qui signifie qu'ils sont très proches les uns des autres. Vous pouvez croiser un chien avec un loup, leur descendant avec un coyote ou avec un chacal, et ça fonctionne tout aussi bien.
Que se passe-t-il là de particulier avec l'animal chien? Que se passe-t-il avec chien et une création de l'homme? Est-ce que ce serait juste de parler ainsi?
Le fait est qu'on ne sait pas si chien est une création de l'homme. On a du mal à savoir quand, où, comment chien est apparu. On a une certitude maintenant grâce à la génétique, une quasi-certitude, c'est que chien est né du loup gris. Et après, il faut faire quand même un effort d'imagination, parce qu'un loup gris, c'est 50 kilos d'indépendance. J'emploie le terme de sauvagerie, mais ce n'est pas un terme péjoratif. C'est-à-dire un animal formidablement adapté à la vie sauvage que vous ne verriez pas dans votre appartement, sauf à prendre de gros risques de vous brouiller avec votre assureur. En conséquence de quoi, la question se pose, comment a-t-on transformé un loup gris en chihuahua? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, que vous voyez des chiens aussi bigarrés, aussi différents qu'ils soient, aussi variés dans leur taille, de 1 kg à 100 kg, ils descendent tous. Il y a 15 000 ans, c'était tous des loups gris. Et là, il y a un mystère. Parce que Canis familiaris, Canis lupus, chien et loup, que tout semble opposé, sont en fait issus de la même patte, sauf qu'il y a une patte qui est restée vierge quelque part dans la nature, et une autre patte qui était tellement bonne qu'on l'a modelée selon tous nos caprices. On a fait des chiens pour tout faire, et c'est pourquoi ils nous ont accompagnés dans quasiment toutes nos activités.
Alors, il y a une particularité, je te cite, une chose semble cependant certaine, notre domestication, dois expliquer que tu fais parler les chiens, c'est-à-dire que ce sont toujours les chiens qui parlent. Et c'est une des particularités de ton livre, Laurent, c'est que ce sont les chiens qui parlent. C'est vraiment un vrai tour de force littéraire. Je continue. Notre domestication a été radicalement différente de celle de tous les autres animaux. D'abord, parce qu'elle a été bien plus précoce. Donc, premièrement, parce qu'elle a été bien plus précoce. Alors que vous avez commencé à domestiquer des herbivores pour leur viande, au mieux il y a 12 millénaires, nous autres, les canidés, avons été domestiqués au moins 6000, sinon 24 000 ans auparavant. Là, il se joue quelque chose de très, très particulier.
C'est un véritable mystère, effectivement. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont probablement domestiqué les premiers chiens. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une qui tient assez bien la route, je trouve. C'est que l'irruption de nos ancêtres, de nous, Homo sapiens, en Eurasie, a bouleversé les équilibres du grand gibier. Nous avons chassé de façon extraordinairement efficace. Et donc, le super prédateur qui dominait ces écosystèmes-là depuis plusieurs centaines de milliers d'années, qui était le loup gris, s'est retrouvé en difficulté. Et comme tout animal en difficulté, il a expérimenté de nouvelles solutions pour s'en sortir. Et parmi eux, une poignée d'entre ces loups gris ont peut-être eu l'intuition qu'ils pouvaient s'en sortir par une association, une symbiose avec nos ancêtres. Et c'est peut-être comme ça que ça a commencé comme histoire, c'est-à-dire une association entre Homo et Canis. Certains imaginent que c'était pour une chasse plus efficace. On peut faire une observation contraire. Dans un village papou, par exemple, quand des touristes débarquent dans un village papou, ils sont souvent horrifiés d'un point de vue hygiénique parce qu'il y a des chiens jeunes qui traînent, ces fameux chiens errants, bâtards, corneaux, peu importe. À quoi ils servent les chiens dans les villages ? Ils lèchent le cul des tout-petits pour les débarrasser de ce qui ne devrait pas y être. En gros, ils remplacent les couches culottes. Et ben, c'est beaucoup plus hygiénique, ça c'est un premier point. Mais surtout, ça donne le premier usage possible d'un canis dans un groupe humain, c'est celui de vie d'ordure. Et peut-être que l'association entre chiens et humains, elle a commencé comme ça. Et n'oubliez pas maintenant, quand vous voyez un chien flairer une crotte, voire la savourer à petits coups de gueule, qu'elle lui apporte plein d'informations chimiques sur l'identité de son propriétaire, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans une interaction avec ce propriétaire, quel âge elle a, etc. Il sait plein de choses en la goûtant, la flairant, etc. Et donc peut-être que c'est sa nature de chien que d'agir ainsi.
Il y a donc une histoire de domestication, une domestication qui n'est pas forcément à sens unique, qui n'est pas forcément uniquement le sens de l'homme vis-à-vis de Canis, mais dans une domestication, il y a deux parties en fait, et c'est mutuel aussi. Il y a des suppositions, et il y a aussi quelques certitudes. Tu essayes d'évaluer quelles sont les suppositions les plus certaines en fait, hein, parce qu'il y a assez peu de travaux, j'imagine aussi, historique, et puis parce que ça remonte loin.
Alors, on ne peut pas faire de travaux historiques dans la mesure où personne n'a décrit la domestication des principaux animaux que nous connaissons aujourd'hui, puisque ça s'est passé bien avant l'invention de l'écriture, donc de l'histoire telle que nous la connaissons. Non, il faut en revenir à la génétique et à l'archéologie. Et là, il y a des publications contradictoires pour être charitable. Mettons qu'à partir des mêmes données, on a surtout des études qui aboutissent à des conclusions radicalement différentes sur la domestication du chien. Alors, je voudrais insister sur plusieurs points. Le chien est d'abord un carnivore, à la base plus ou moins omnivore, hein, mais le loup gris est un carnivore. Et c'est le seul carnivore qu'on a domestiqué. Non seulement c'est le premier animal qu'on a domestiqué depuis très longtemps, mais c'est le seul carnivore que l'on a domestiqué en masse. Le chat, c'est venu beaucoup plus tard, la domestication réelle du chat. Et dès lors, se pose la question à quoi ça pouvait servir. On comprend bien pourquoi des humains, peut-être maîtres et possesseurs de la nature, ont pu encercler des aurochs, les mettre dans un enclos et en faire des vaches. Parce qu'ils avaient de la chair, du lait, du cuir. Ok, ils avaient un avantage. Le chien n'apporte aucun avantage immédiat. Et il y a donc ce mystère-là qui est peut-être une association, peut-être une habitude prise de les voir errer autour des campements pour se nourrir de nos déchets. Peu importe, mais ça veut aussi dire que c'est un animal qu'on a domestiqué depuis si longtemps que l'on en a vraiment changé sa morphologie et surtout sa psychologie. D'où un registre d'interaction extrêmement varié que l'on n'a pas avec d'autres animaux domestiqués. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on utilise les techniques d'archéologie, on se trouve face à des animaux qu'on soupçonne être des loups domestiqués. Quelque part en Europe de l'Ouest, entre l'Oural et la Belgique, on a, il y a 30-33 000 ans, dans les grottes de Rasbonitia et dans celle de Goyer en Belgique, des animaux qui ressemblent à des chiens dans la mesure où leur museau est plus court, leurs dents plus petites que celles d'un loup. Et donc ce sont peut-être des loups domestiqués dont la domestication se voit déjà sur la modification de la morphologie. Mais quand on regarde les sources génétiques, il y a, je ne dirais pas un consensus chez les généticiens, ça, le mot serait un peu fort, mais une dominante de thèse qui fait pointer la diversité génétique des chiens quelque part à l'ouest de la Chine, dans le Xinjiang ou en Mongolie intérieure ou aux limites du Tibet, du Népal. Voilà. C'est dans cette zone-là que la diversité génétique des chiens est la plus forte et que donc, a priori, ils ont été domestiqués. Donc le scénario est le suivant. Quelques centaines de loups gris auraient été domestiqués il y a peut-être 16 à 18 000 ans en Chine de l'ouest. Et de là, ils se seraient répandus un peu partout dans le monde, sachant qu'il y aurait eu peut-être d'autres processus d'apprivoisement ou de domestication ailleurs, mais que génétiquement, les chiens chinois auraient absorbé les autres. Et peut-être, y a-t-il un peu de génome de loup d'ailleurs dans certaines espèces, notamment autour du cercle polaire. Mais voilà. Et on avait autrefois construit des scénarios assez compliqués et on continue aujourd'hui à essayer d'expliquer cette diffusion des différents chiens. Il y a des arbres généalogiques suivant les différents types que l'on retrouve.
Tu fais commencer ton enquête avec le plus ancien chien incontesté connu. Parce que on s'aperçoit à la lecture de ton livre Homo Canis que il y a beaucoup d'éléments qui malheureusement nous échappent complètement. Et alors ce plus ancien chien incontesté connu, ça serait lequel ? Ça serait donc en Chine.
Oui, alors là, je force un peu le trait parce que pour être incontesté, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc là, on remonte à quelque chose comme 8000 ans en Chine, dans un village chinois où on a retrouvé des traces vraiment... on sait que c'est un chien. Voilà. Mais on a beaucoup d'autres animaux dont on est quasiment certain que ce sont des chiens. En Chine, il y a 11 000 ans, mais en Amérique aussi, il y a 11 000 ans, et à Bonn-Oberkassel, en Allemagne, il y a 14 000 ans. Donc là, on a déjà des chiens, c'est-à-dire des loups qui ont morphologiquement évolué pour être moins puissants, plus petits, avec des pattes plus courtes, des museaux plus courtes, une dentition moins dangereuse, et qui donc sont familiers des humains. Il y a également une autre catégorie d'hypothèses qui voudrait qu'en fait, les humains aient domestiqué une sorte de petit loup qui avait depuis longtemps divergé du loup gris et qu'il aurait disparu à l'état sauvage parce qu'il aurait trouvé tellement avantage à entrer en symbiose avec nous que il aurait littéralement été désintégré des registres antérieurs archéologiques. Les Chinois, certains savants chinois avancent l'hypothèse que ce serait un loup qu'ils auraient identifié, qui est un petit loup, le loup de Zhukudian. Alors, vous allez me dire, mais on sait faire la différence entre un loup et un chien. Non, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, par exemple, si vous approchez du cercle polaire, vous avez des loups énormes, parce qu'ils sont habitués à manger beaucoup de viande, à chasser en groupe. Donc, vous avez des loups au Canada qui pèsent fréquemment 60-70 kilos. Des gros loups, puissants, bien hauts sur pattes, comme on l'imagine dans les films, parce que c'est cela que l'on met en avant dans les films, et ce sont les meilleurs figurants. Mais plus vous descendez vers le sud, et lorsque vous arrivez en Inde, en Arabie ou en Afrique du Nord, vous avez des loups encore. Mais là, vous avez des animaux qui ont vraiment diminué en taille, qui se nourrissent de rats, de sauterelles, qui pèsent parfois juste 10 kilos à l'âge adulte, qui ressemblent à des chacals à tel point qu'on les a longtemps confondus avec des chacals. Ce sont pourtant des loups. Ce qui veut dire qu'un archéologue qui, dans 10 000 ans, trouvera un loup d'Éthiopie de 10 kilos, tout frêle, et un loup du cercle polaire de 70 kilos, bien puissant, et qu'il comparera les deux, est-ce qu'il aura l'intuition qu'il s'agit du même animal ? La question se pose. Donc il y a une très grosse diversité génétique des loups. Ajoutons à cela que le succès évolutif du chien a été tel que souvent il s'est plus ou moins hybridé avec les loups et qu'il est très difficile d'avoir aujourd'hui des animaux canis qui est vraiment une ascendance complètement débarrassée d'apports étrangers dans leur passé. Et donc c'est très très difficile de déterminer les horloges génétiques, ce moment où il y a eu suffisamment de différences génétiques pour qu'on puisse calibrer dans le temps l'apparition des variants.
À la lecture de ton livre, je me suis aperçu qu'il y a cette énigme, c'est quelque chose qui m'a passionné, c'est l'énigme de la domestication. Et on comprend que les nouveaux travaux de cette discipline de l'éthologie va justement permettre d'essayer de traiter au mieux cette énigme de la domestication. Est-ce que c'est le cas ?
Bien sûr, parce qu'à partir du moment où certains pensent que le chien s'est fait domestiquer parce qu'il y a trouvé intérêt, c'est avancé dans certains ouvrages, c'est intéressant de se pencher sur la cognition du chien. Et depuis une dizaine d'années, il y a effectivement plein d'études scientifiques qui autorisent ça. Donc on peut essayer effectivement, en toute modestie, de se transformer, comme je l'ai fait, en porte-parole d'une meute de chiens, et chacun raconte un fragment du récit auquel il a assisté. Donc l'ouf raconte d'où elle vient, quelle est l'origine des loups, et puis je reprends ensuite avec Renard qui explique pourquoi il n'a pas été domestiqué mais qu'il aurait pu l'être alors que chien l'a été. Et puis j'enchaîne avec différents types de chiens qui chacun raconte son fragment d'histoire, l'histoire à laquelle il a participé. Donc c'est un artifice narratif mais qui se base sur l'exploitation de deux types de sources comme je l'ai déjà fait pour Cataclysme, à savoir l'historiographie anglo-saxonne publiée en anglais où il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés justement à ces nouvelles histoires des chiens, des animaux et à la littérature scientifique parce que de plus en plus on rentre dans la cognition animale et là on se rend compte qu'il y avait plein de choses que orgueilleusement on pensait être le propre de l'homme et qui en fait est assez partagé dans le monde animal, mais parfois sous des variantes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc oui, il est temps d'écrire des histoires aussi du point de vue des autres pour renouveler notre vision de notre histoire et comprendre également mieux les enjeux du passé et ce que ça nous dit de notre présent.
Et ça, c'est assez récent. Méthodologiquement et aussi historiographiquement, c'est récent de pouvoir réaliser ce type de littérature, ce type d'expérience.
Je pense que ça aurait été inenvisageable il y a seulement quelques années. J'ai bénéficié, par exemple, de l'apport très précieux d'un historien qui s'appelle Éric Baraté, qui a publié plusieurs livres consacrés à l'expérience du vécu des animaux, que lui observe à la fois en tant qu'historien et en tant qu'éthologue. Il va chercher dans les archives et il essaye de s'imaginer comment les animaux ont vécu des événements précis qui sont documentés par les humains. Ainsi, par exemple, l'ânesse que Stevenson utilise pour traverser les Cévennes, en fait, éthologiquement, elle a vécu un calvaire parce que Stevenson ne savait pas gérer un animal de charge. De même, il travaille sur le vécu des chiens dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ou sur le vécu d'un taureau dans une corrida légendaire. Comment est-ce que les animaux, de leur point de vue, ont subi ça? Et on peut le faire aujourd'hui, justement, grâce à ces travaux novateurs. Il y a également une anthropologue, Marion Vidard, qui s'est mise à quatre pattes pour les besoins de sa thèse pour vivre en chien. Voilà. Donc, ces expériences-là, elles sont irremplaçables. Elles permettent également de comprendre comment l'animal peut vivre avec nous. Et également, un point fondamental que j'ai appris grâce à Éric Baraté, c'est que nous, on parle de chiens et on a l'impression que les chiens sont éternels et que, d'accord, j'ai un chien, il agit comme ça, donc tous les chiens agissent comme ça. Non, il y a seulement un siècle, la cognition des chiens était très différente parce qu'on les traitait très différemment. Et si aujourd'hui, on arrive à faire des miracles, à faire des miracles à des chiens d'assistance, par exemple, à des personnes paraplégiques, les chiens d'il y a 2 siècles n'y seraient probablement pas arrivés parce qu'ils n'étaient pas contextuellement, socialement, mis dans le même état d'esprit, ils n'étaient pas dans les mêmes registres d'interaction que les chiens aujourd'hui. Les chiens coévoluent avec les humains. C'est aussi une leçon fondamentale.
Et il s'est alors passé quelque chose d'incroyable au 19e siècle, c'est qu'il y a eu aussi invention de races de chiens. Jusqu'ici, c'est ce que tu expliques dans ton livre, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais avant le 19e siècle, et notamment l'époque victorienne en Angleterre, il n'y avait pas de race de chiens, et c'est finalement une invention récente d'il y a 2 siècles.
D'accord. Là alors, le terme de race est apparu à la fin du Moyen-Âge. On parle de chiens de race à l'époque pour qualifier des chiens efficaces sur lesquels on fait peser une sélection, je dirais, empirique, c'est-à-dire qu'on retient ceux qui semblent les plus prometteurs dans une portée pour une tâche déterminée. En gros, on fait des chiens pour certaines activités de chasse, donc on sélectionne des chiens rapides ou des chiens agressifs, puissants, capables de se mesurer à un sanglier. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les chiens de race. Mais ça reste un travail sur ce qu'on appellerait le type de chien. On avait ainsi depuis l'Antiquité des types, c'est-à-dire des animaux sélectionnés soit pour être de très bons coureurs, et on avait vu apparaître des types lévriers qui sont assez fréquents dans l'iconographie antique, ou des types dogs qui servaient à la chasse au gros gibier, à la garde des troupeaux ou à la guerre, qui étaient des chiens sélectionnés pour leur masse musculaire et leur capacité à égorger sur ordre. Et c'est ça qui continue à se passer jusqu'à l'époque romaine, à l'époque médiévale aussi. On continue à perfectionner ça au point qu'on voit apparaître littéralement des variétés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même des catégories que sont les types, on voit apparaître des chiens plus spécialisés. Et donc on peut parler à ce moment-là de variété. Mais la race à proprement parler, telle qu'on la définit aujourd'hui, c'est-à-dire un chien dont on a vraiment renforcé les caractères par une sélection extrêmement pointue qui va aujourd'hui chercher jusque dans la génétique, et un renforcement d'une morphologie très précise avec des critères, il doit s'inscrire dans telle forme géométrique, un carré, un rectangle, il doit avoir le museau de telle longueur, le coffre de tel diamètre, les pattes de telle hauteur, il doit peser dans tel intervalle de poids, il doit avoir tel type de poil. Ça apparaît effectivement dans la seconde moitié du 19e siècle. Ça commence en Angleterre, ça se diffuse assez rapidement en France, et puis ça se communique comme un modèle jusqu'en Inde et ailleurs pour les élites. Au début, c'est vraiment un truc d'élite, mais ça renvoie aussi à un projet colonial finalement de l'Europe. C'est de, au-delà de contrôler les territoires, c'est aussi de contrôler le corps. Des chiens. Avant de contrôler le corps des gens, on va contrôler le corps des chiens quelque part et lui imprimer un standard.
Alors prenons le dispositif vraiment original d'Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité. Il y a des chapitres dans lesquels à chaque fois chien parle, mais à chaque fois c'est une variété ou une race de chien qui parle, et à travers sa variété ou sa race, nous avons affaire à toute une histoire depuis que cette variété ou cette race existe jusqu'à nos jours, ou jusqu'à en tout cas sa disparition. Et cela sur tous les continents. On n'oublie pas que tu fais de l'histoire globale, donc tu t'intéresses à tous les continents, tu t'intéresses à toutes les civilisations depuis que l'homme existe. Et des fois, on a des histoires très très sur un temps long ou sur un temps plus court. Une qui m'a beaucoup impressionné, c'est Basset, l'animal-machine. Je te cite. Dans sa cage, Basset tourne broche. Déjà, il est affublé d'un sobriquet. Basset tourne broche. Oui, il tourne la broche pour que Poularde soit cuite à point. Plongé dans l'enfer des chiens qui ne vivent que de leur force de travail, prenez un siège à l'école de maître des cartes. Animal, tu es une machine. Moteur, vivant tu seras en attendant que l'on maîtrise les énergies fossiles. Ça, c'est le petit paragraphe d'introduction à ce chapitre sur Basset, l'animal-machine, où on va passer d'un chien qui a été sélectionné pour pouvoir utiliser sa force motrice pour qu'il actionne une machine pour faire tourner dans les cuisines la broche pour qu'elle tourne, pour cuire de manière constante un animal qui est sur le feu de cheminée, sur le feu. Et cette force de travail va être utilisée jusqu'à temps qu'il puisse y avoir une motorisation, enfin, en entendant, un phénomène mécanique où il ne sera plus du tout utile. Et on va croiser cela, enfin, tu vas croiser cela avec René Descartes, qui va conceptualiser le fait que l'animal est un animal machine. Peux-tu nous parler de ce chapitre ?
Oui, parce qu'effectivement, là, ce n'est pas sur la planète entière, mais c'est en Europe que ça se joue. En Europe, où à la fin du Moyen-Âge, on a imaginé effectivement d'utiliser des chiens comme force motrice de dispositifs mécaniques. Il faut dire que pour avoir de l'énergie, on n'avait pas 36 solutions. En fait, elles étaient à peu près au nombre de 3. C'était l'esclave humain. C'est ce qu'on utilisait dans les champs de canne à sucre, par exemple. C'était le quadrupède tracteur de grande taille, cheval, bœuf, qu'on utilisait pour divers dispositifs mécaniques. Et puis, c'était le chien qui avait l'avantage d'être petit et d'être très endurant. En fait, à poids égal, un chien tracte plus qu'un cheval. Un chien de traîneau tracte plus qu'un cheval de carriole. Donc on a imaginé de sélectionner des chiens à pattes assez courtes, à poils très drus, donc résistants au feu, qui couraient dans des cages qui ressemblaient à celles des hamsters et qui entraînaient ce faisant un dispositif mécanique. Donc leur usage le plus connu, c'est celui de tournebroche. C'est pourquoi on les appelle des tournebroches. Mais on les a utilisés aussi pour fournir de l'énergie dans des moulins, dans des dispositifs pour battre le beurre en baratte, dans d'autres mécaniques, y compris dans des métiers à tisser, pour fournir de l'énergie. Jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, ils ont été progressivement remplacés par des automates plus performants et puis surtout par des moteurs à terme de la révolution énergétique. Et à ce moment-là, ce chien-là a disparu, il s'est éteint. Personne ne s'est préoccupé d'en conserver le morphotype, de le garder. Il faut dire que la plupart des auteurs qui en parlent le considèrent vraiment comme soit le truc le plus moche qui se puisse concevoir, soit vraiment comme un galérien, enfin le rebut de la chiennerie, quoi. Donc voilà, il y a des anecdotes assez drôles qui circulent aussi parce qu'on se servait naturellement de ce chien pour d'autres usages. Il y a notamment une histoire très connue en Angleterre qui fait toujours rire. C'était un grand ecclésiastique qui était venu faire un sermon, qui était très charismatique, et donc l'église était très froide, hein. Nous sommes au début des temps modernes en Angleterre, et donc il y a l'orateur qui clame ça, et à un moment l'orateur a choisi de commenter Ézéchiel et il prononce le mot roue. C'est alors qu'Ézéchiel vit la roue, et il donne un grand effet à sa roue. Ce qui a pour résultat de faire sortir de dessous les robes des dames des petits chiens qui se ruent vers la sortie parce qu'ils entendent de roue, ils associent tout de suite ça à la corvée. Et ils étaient là en fait pour chauffer les pieds de ces dames qui les avaient introduits dans l'église sous leurs robes. Donc l'anecdote est amusante, mais elle montre bien aussi que ces chiens-là étaient très répandus et que finalement on les a complètement oubliés. Et alors c'est ce contexte-là qui explique aussi l'utilité de Descartes quelque part. Parce que Descartes, on le sait, était un idéologue qui a plaqué certaines de ses idées sur le monde et ce sont devenues des évidences. Et notamment, Descartes a imposé la thèse du dualisme qui fait que pour lui, les animaux ont un corps et qu'il n'y a qu'un seul être sur Terre qui a un corps plus une âme, c'est l'homme. Voilà. En conséquence de quoi, les animaux sont des mécaniques divinement programmées pour simuler des choses. Donc ça donne des choses absolument absurdes, notamment un théologien dans la génération suivante, disciple de Descartes, Nicolas de Malebranche, qui va faire une démonstration. Il prend sa chienne qui est gravide, c'est-à-dire pleine, enceinte, on pourrait dire si on parlait d'une humaine, et il lui file des coups de pied et il explique à son invité que elle simule la douleur là, mais c'est parce qu'elle est mécaniquement programmée pour geindre, mais elle me le ferait savoir si elle avait vraiment mal. Donc le chien était tellement bonne patte qu'en fait il marchait très bien comme animal machine, parce que les chiens, on les a sélectionnés depuis 15 000 ans pour qu'ils nous fassent plaisir, à vrai dire, le truc. Donc, du moment qu'on s'entiche d'une idée et qu'on la projette sur eux, comportementalement, ils réagissent pour nous faire plaisir, ils sentent nos attentes et ils y souscrivent. C'est pour ça qu'on peut raconter beaucoup de choses sur les chiens, qu'on peut avoir des théories différentes des conditionnements ou des dressages sur les chiens. Toutes sont plus ou moins efficaces, tout simplement parce que le chien mettra aussi son intelligence à essayer de comprendre ce que l'humain en face de lui attend de lui et pour lui complaire le plus possible. Et c'était donc le modèle idéal pour faire croire à l'animal-machine, et c'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup utilisé dans des expériences de psychologie ou de vivisection absolument atroces.
Alors, ce qu'on apprend également avec ton livre, c'est que le chien est donc domestiqué, mais il cohabite avec l'homme aussi. Enfin, il peut être mangé aussi. C'est-à-dire que là, on parle de Descartes, on est dans la culture européenne. C'est quelque chose que nous connaissons bien, toi et moi. Mais ta particularité d'historien total et global, c'est que tu t'intéresses aux autres sociétés, aux autres civilisations. Et là, bien entendu, c'est des choses qui nous sont, à nous, Européens, étrangères. Or, le chien peut très bien être mangé, peut très bien servir de nourriture, quelque chose qui peut nous paraître vraiment, à nous, Européens, comme une abomination. Et pourtant, dans d'autres cultures, oui, ça ne pose absolument aucun souci.
Alors, ça commence à en poser parce que le modèle occidental s'impose un peu partout sur la planète. Je voudrais juste revenir un peu en arrière. Nos ancêtres, les Gaulois, enfin ancêtres, là, j'emploie le terme d'ancêtres en forme d'ironie, mangeaient du chien, ils aimaient bien ça, et certains Romains élevaient des chiens de lait pour les manger. En France, on a mangé du chien, pas seulement pendant le siège de Paris en 1870, comme on le rapporte dans certains ouvrages. La dernière boucherie canine a officiellement fermé ses portes à Paris dans les années 1920. Voilà. Et je pense que les boucheries chevalines sont en train de suivre le même chemin progressivement et qu'on va les voir disparaître parce que c'est une question de sensibilité par rapport à tel ou tel animal. Alors il faut bien voir que c'est aussi en France une pratique qu'on considérait comme ressortant du bon peuple parce que les élites en même temps colonisaient le monde en expliquant aux gens que le marqueur entre la civilisation et la sauvagerie, c'était le fait de manger ou pas son chien. Donc c'était quelque chose d'humiliant pour les Polynésiens ou un certain nombre de peuples africains qui eux-mêmes mangeaient beaucoup de chiens autrefois et qui aujourd'hui répugnent de plus en plus à le faire. Cet usage a considérablement reculé en Afrique et il est devenu clandestin en Polynésie. Il continue quand même à exister. En Asie, en revanche, dans certains pays d'Asie, essentiellement le Vietnam, la Corée et la Chine, on continue à manger du chien. On estime environ 25 millions de chiens consommés chaque année là-bas. La plupart, jusqu'à peu récemment, étaient élevés à cette fin, c'est-à-dire c'était des chiens souvent de blancs, assez gras, qu'on tenait en cage. On peut castrer un chien, par exemple, aussi, pour qu'il grossisse plus vite. On peut le gaver, dans certains cas, etc. Voilà. Et puis, on le faisait dans différents plats. Ça se ressemble souvent à la charcuterie, etc. Et il est vrai que, comme ça devient de plus en plus répulsif, à la fois pour les Occidentaux et à la fois pour une certaine classe moyenne dans ces pays-là, qui n'aiment pas trop être désignés du doigt, c'est une pratique de plus en plus dissimulée. Et en même temps, comme c'est une viande chère, il faut bien savoir qu'un chien gras, dans certains pays, c'est un mois de salaire. Et c'est 20 kilos d'animal, quoi. C'est pas un gros animal, c'est pas un cochon. Donc c'est une viande d'élite et comme ce sont des pays qui connaissent une ascension, un enrichissement assez fort, une classe moyenne en constante progression, on en mange de plus en plus. Donc ça entraîne des trafics aujourd'hui parce que le fait que ce soit à la fois vu comme répugnant, combattu que ce soit en os malgré tout de la part de ceux qui en consomment, provoque une entrée en clandestinité et donc il y a des trafics. Autour de la chair de chien, c'est presque un sujet géopolitique puisque il y a des trafiquants vietnamiens qui se procurent de la chair de chien là où on n'en mange pas en Thaïlande et qui l'importent ainsi congelée pour la vendre au Vietnam. Voilà, donc il y a aussi cette dimension. Et on a mangé du chien aussi pour des raisons religieuses autrefois, notamment chez les Aztèques, on élevait des chiens gras, ce que nous appellent les Espagnols. C'était pour des repas de deuil, c'était des chiens qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà, on les consommait, et comme ça l'animal dans l'au-delà montrait le chemin que devait suivre le mort pour accéder à son repos éternel.
Pour terminer cet entretien, j'avais deux questions. Ma première, ça serait celle du dispositif du livre. Pourquoi faire parler chien ? C'est le chien qui, c'est chien qui parle. Et à chaque fois, c'est une variété ou une race différente. C'est un dispositif véritablement puissant. J'ai l'impression que c'est nouveau pour un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire, un livre absolument sérieux, hyper documenté. Pour avoir lu les ouvrages d'Éric Baraté, il n'emploie pas ce type de dispositif. Or, ce dispositif de faire parler chien provoque quelque chose, provoque une empathie, provoque une relation. Il se joue là quelque chose aussi de littéraire, et je voulais savoir alors quel as-tu lu dans des romans, dans des fictions, quelque chose qui t'aide à pouvoir écrire ce livre-là?
Il y a quelques romans de fiction qui utilisent ce registre-là du chien qui parle à la première personne. En fait, on peut remonter à la toute fin du 15e siècle, oui, c'est ça, où il y a une autobiographie en fait d'un chien très connu à l'époque, d'un roi de France, Louis XI. C'est Souillard qui raconte sa vie aux mains de son bon maître, et on soupçonne en fait que c'est un courtisan qui l'a écrit, parce que le chien recommande d'être fidèle au roi, de ne jamais questionner ses décisions, etc. Bref, on sent vraiment le besoin d'être laudateur envers le commanditaire de l'œuvre. Donc le dispositif narratif n'est pas nouveau. C'est vraiment Éric Baraté qui m'a inspiré à partir de Biographie animale, puisque dans Biographie animale, il tente l'expérience de relire des archives humaines sur le vécu d'un animal, et puis de retranscrire le vécu de l'animal de façon littéraire en utilisant diverses formules littéraires, en expérimentant en fait, et il appelle à continuer ce travail-là. Donc quelque part, j'ai suivi cet appel, mais sous une forme plus de vulgarisation, parce que la plupart des dispositifs en fait littéraires d'Éric Baraté demanderaient beaucoup d'attention du lecteur si on faisait un livre entier avec. Si en tournant quelques pages, c'est les différentes solutions qu'il imagine pour restituer l'éthologie de l'animal, la cognition particulière de chacun des récitants, l'attention soutenue ne marcherait pas. Donc j'ai fait quelque chose de plus littéraire. Je n'ai pas essayé de restituer ce qu'on pourrait appeler du caninois, c'est-à-dire cette espèce de langage bête que l'on prête aux chiens. Ah, gentil toutou, il est gentil toutou. Comme on s'adresserait à un enfant de 2 ans en répétant certains mots, en utilisant des mots très simples, des phrases extrêmement courtes, voire complètement dénuées de structure grammaticale. Ça serait très lassant et ça ne se prêterait pas à un livre d'histoire. Donc c'est un livre rédigé à la première personne du point de vue des chiens par les chiens, mais on sent que c'est l'humain derrière qui forcément écrit, se fait le porte-parole des chiens. Et encore une fois, on peut s'autoriser ça aujourd'hui grâce au nouveau regard qu'on porte, grâce à toute une myriade de chercheurs sur les intelligences animales aujourd'hui. Il y a énormément à puiser comme matériau d'écriture là-dedans. Pourquoi ne pas envisager l'histoire d'un point de vue du perroquet ou de la vache? Et je pense qu'il y a énormément de choses à écrire sur cette question.
Il y a vraiment un champ à ouvrir. Très important. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qui t'a le plus étonné en écrivant ce livre que tu n'imaginais pas au départ de ce projet ? Ce qui t'aurait vraiment étonné, c'est-à-dire que tu as ce projet depuis des années, tu amasses une documentation, et puis à un moment donné vient le moment de l'écriture, c'est-à-dire de la mise en construction, de la mise en complexité, de la mise en écriture. Or, j'imagine que tu faisais des hypothèses, tu devais imaginer des hypothèses, et puis soudain, creusant, cherchant les différents travaux disponibles et croisant ces travaux pour faire des hypothèses, peut-être que des choses t'ont particulièrement étonné que tu n'avais pas imaginé. J'espère ne pas te déstabiliser.
En fait, j'ai appris plein de choses parce qu'il y a plein de croyances fausses sur les chiens. Et en creusant ce sujet, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour nous faire plaisir, les chiens ont endossé des tas de croyances. Et à travers ces croyances-là, c'est nous que l'on voit dans les yeux des chiens. Je vais donner un exemple. C'est pas celui qui m'a le plus surpris parce que j'avais été alerté assez vite par mes lectures là-dessus, mais c'est l'idée de l'alpha. On pense couramment que chez les loups, il y a un couple dominant qui inhibe la sexualité des autres et qu'il y a des combats pour la domination. Et en fait, on sait maintenant qu'on a observé des loups à l'état sauvage que les alphas, c'est la papa et le papa et la maman qui s'entourent de leurs rejetons des dernières portées pour mener à bien l'éducation des suivants. Et qu'au bout d'un moment, quand les loups sont mûrs d'un point de vue écologique, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a de nouveaux territoires à conquérir, ils s'en vont, ils quittent la meute. Et donc, l'alpha, en fait, le concept d'alpha est né dans l'entre-deux-guerres en Europe à une époque où la vie politique était dominée, peut-être un peu comme elle commence à tendre à l'être aujourd'hui, par des hommes forts qui étaient caudillos, fourreurs, etc., etc. Et donc, il faisait sens dans une Europe en proie à la montée des populismes et des fascismes. Il fallait un leader fort. Voilà. Et donc, on a porté ça sur les chiens. C'était même pas un acquis d'avance. C'est-à-dire qu'on a tellement modifié la génétique des chiens que sur un grand nombre de comportements, ils n'ont rien à voir avec les loups. Et heureusement pour nous, parce que cohabiter avec des loups, ça serait une activité assez délicate, mais on a supposé qu'on pouvait dresser un caniche en se comportant avec lui comme l'alpha de sa meute. Ce qui est pour la plupart des éthologues aujourd'hui un contresens parce qu'ils ne comprennent pas ces codes-là. En fait, si on a dominé les chiens, le grand secret de la domestication, c'est qu'on les a infantilisés. On les laisse en enfance. Et comme ça, ils restent dépendants toute leur vie, effectivement, d'un dominant qui les a imprégnés, qui se fait plus ou moins passer pour voilà, quelqu'un de leur univers, pas forcément de leur espèce, ils ne sont pas si bêtes que ça, ils ne pensent pas qu'on est de la même espèce, mais ils ressentent cette dépendance et on les a sélectionnés pour ça. Tous les caractères qui distinguent un chien d'un loup, les oreilles tombantes, la queue recourbée, le fait d'aboyer, les pattes raccourcies, les petites dents, les grands yeux qui vous attendrissent, tout ça, ce sont des caractères de nouveau-né qu'on a prolongés. Un chien, c'est un loup enfant ou adolescent, suivant son développement. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on peut les dominer, mais c'est pas en s'imposant à eux comme un alpha, en leur commandant, on obtient plus de choses en fait, plutôt qu'en commandant ou en brutalisant un chien, on obtient plus de choses de lui par le jeu, par la coopération, par la stimulation cognitive. On peut leur faire faire des miracles aujourd'hui justement parce qu'on les enrichit là-dessus. Et il y a plein de moments dans l'histoire où cette donnée-là, elle a été cruciale. Par exemple, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les Anglais tiraient beaucoup plus de ressources de leurs compagnons canins que les Français, parce que les Français étaient vraiment imprégnés de l'esprit cartésien qui était l'animal-machine. Si ça marchait pas, si le chien refusait d'aller chercher le blessé, on le tabassait. Ça l'incitait pas trop à collaborer. Au contraire, les Anglais récompensaient, encourageaient le chien jusqu'à ce qu'il y arrive, et donc ils obtenaient plus de résultats. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut cesser de traiter les chiens comme des biens que l'on pourrait acheter puis jeter, comme ce sont des êtres extrêmement sensibles qui peuvent apporter des tas de choses, y compris d'un point de vue réconfort aux êtres humains, donc il faut vraiment les traiter comme des partenaires.
Merci beaucoup, Laurent Testin.